C'est pour,
comme je vous disais, c'est pour notre réseau informatique que je peux reprendre tout ce que j'ai dit durant le fait. Alors, vous allez chez le point parlable et vous allez reprendre aussi la parole de Jésus par vous êtes et par vivant.
Ça va. Ça commence mal, mais je te. Ça commence mal, mais je te pardonne. Bon. Alors, est-ce que ça va pour la voix? Tout le monde comprend? Tout le monde entend? Oui. Alors, écoutez, simplement vous redire que mon premier contact avec Foi et Partage, si mon souvenir est bon, ça a été en 1977. Je sais que plusieurs d'entre vous n'étaient pas au monde, mais la majorité l'était tout de même. Alors, ça a été en 1977 pour la retraite populaire ici à Saint-Malo. Et depuis ce temps-là, c'est depuis cette expérience-là qui a été marquante, je pense, dans la vie de Foi et Partage, bien, il y a eu naturellement beaucoup de retraites populaires qui se sont vécues ici. Quelquefois, il s'en est vécu à l'extérieur de Québec. Je me souviens d'une retraite qu'on a animée à Saint-Prosper. On disait dans ce temps-là Saint-Prosper de Dorchester. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui étaient là à ce moment-là, à Saint-Prosper? Il y en avait. Bon, c'était une aventure. Mais honnêtement, on a trouvé que c'était plus simple pour rejoindre la majorité des gens attachés à Foi et Partage de le faire à Québec. Alors, j'ai eu l'occasion quelquefois d'animer cette retraite avec toujours une autre personne, bien sûr. Et dans le quartier Saint-Sauveur, ici, on est chanceux parce qu'on a quatre cellules de l'Arche d'Étoile, quatre communautés de l'Arche d'Étoile et le centre de jour de l'Arche. Alors, ça nous maintient en lien constant avec ce grand mouvement qui a été lancé par Jean Vanier, des collaborateurs, des collaboratrices, cette spiritualité profonde puis très importante qui est proposée par l'Arche et par tous les mouvements qui en sont proches. Alors, pendant les dernières années, j'ai eu souvent des contacts avec eux qui ont toujours été très enrichissants. Alors, voilà. Je vous en dis pas plus. Là, depuis le mois d'août, officiellement, je suis à ma retraite, mais comme j'ai dit à l'évêque, s'il y a un besoin à quelque part, tu me le diras. Il a dit, oui, c'est parfait, il y en a un dans la Beauce. Fait que depuis le mois d'août, je vais 3 jours par semaine à Saint-Martin-de-Beauce et aux autres communautés paroissiales qui sont tout proches, mais ça tire à sa fin. Il y a une nouvelle équipe qui va être en charge de ce secteur-là du diocèse. Donc, je devrais normalement retourner à ma retraite, mais on verra. Hein? Seul l'avenir le dira. La plupart d'entre vous, presque tout le monde, vous étiez ici cet après-midi. Alors donc, naturellement, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien retenu ce que Louisette vous a dit, tout de même. Hein? Parce que Louisette nous a dit que la vie, c'était un miracle, mais elle nous a dit ça avec grande conviction. Mais faut voir si ça nous dit quelque chose. Alors, il y a 3 mots en particulier qu'il faut employer dans notre prière. Vous souvenez-vous lesquels?
Wow!
Ben, coudonc, ça va bien, Louisette? Bon, là, ça, c'était facile. Il y a 7 choses qu'il faut avoir dans notre sac à dos. Ça, c'est plus difficile un peu, là. 7 choses qu'il faut avoir dans notre sac à dos sur le chemin de la vie. Allons-y. Comment? Oui, évitons les regrets. Très bien. Deuxièmement, restez curieux et ouverts. Coudonc, vous l'avez écrit, vous êtes comme moi? Parfait, ça. Alors, évitez les regrets, restez curieux et ouverts, cultivez l'amitié, faire une lecture réconfortante de notre vie, être bienveillant, noyer le mal dans un océan de bien. C'est ça que tu as dit, Louisette? C'est poétique, c'est beau, ouais. Puis, finalement, prier. Alors, si on a retenu ça, on a tout retenu l'important. Après ça, il s'agit juste de le mettre en pratique. Hein? C'est toujours ça, dans la vie. Alors moi, ce soir, en enchaînement avec ça, après qu'on se s'est dit ensemble que la vie, c'est un miracle, c'est-à-dire que la vie, c'est un cadeau qu'on reçoit, puis c'est une réalité qui doit susciter notre émerveillement puis notre action de grâce, ben je voudrais vous dire aussi que l'alliance que Dieu nous offre, c'est un miracle. Hein, si on entend par le mot miracle une réalité qui suscite chez nous l'émerveillement puis l'action de grâce, le fait que Dieu veut faire alliance avec nous, le fait que Dieu veuille faire les premiers pas vers nous, ça aussi c'est un miracle. Hein? Parce qu'au fond, c'est ça qui est arrivé depuis qu'il y a des humains sur la terre. La plupart des gens se sont dit, si notre monde est si beau, si notre monde est si merveilleux, s'il y a tant de variété dans la vie autour de nous, et si nous-mêmes, les êtres humains, on est si beau et si grand, ça doit venir de quelque part. Il doit y avoir quelque chose au-dessus de nous autres, plus fort que nous, qui est la source de cette vie-là. Je pense que depuis qu'il y a des humains sur la Terre, ils ont toujours un peu imaginé ça. Il y a quelque chose à quelque part en haut qui est plus fort que nous autres. Puis ce quelque chose-là, c'est aussi bien d'essayer de le mettre de notre côté. Hein? Parce que s'il choque contre nous autres, ça sera pas beau. Alors les humains ont inventé des façons de se mettre en lien avec les forces supérieures, avec les dieux, avec les esprits, avec... pour dire, ben, on va essayer de les mettre de notre côté en leur offrant des sacrifices, des prières, on va faire des rites de toutes sortes pour mettre ces forces-là de notre côté. Ça, c'est une réaction humaine assez normale. Ce qui est nouveau, c'est que ce quelque chose-là au-dessus de nous, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là au-dessus de nous, c'est lui qui veut faire alliance avec nous. S'il attend pas qu'on court après ses faveurs, c'est lui qui court après nous autres pour nous dire, veux-tu être mon ami? Veux-tu me faire confiance? Puis veux-tu me faire une place centrale dans ta vie? C'est ça la grande révélation. La révélation de la foi, même avant Jésus, c'est que notre Dieu, c'est quelqu'un, puis que ce quelqu'un-là nous aime, que ce quelqu'un-là s'intéresse à nous. Et le mot qu'on a employé pour signifier ça très rapidement, ça a été le mot « alliance », parce que pour les gens de ce temps-là, ça voulait dire quelque chose, puis pour nous autres aussi, ça veut dire quelque chose, hein, quand on dit que deux personnes font alliance, font s'entendre l'une l'autre pour s'entraider, pour se soutenir, pour se faire confiance, ça veut dire quelque chose. Alors le Seigneur a dit aux humains, de toutes sortes de façons, je te propose d'entrer dans mon alliance. On dit que ça a commencé, par exemple, très rapidement avec celui qu'on appelle Noé, qui a découvert à un moment donné que Dieu voulait pas causer des catastrophes, voulait pas mettre l'humanité dans le trou, mais qui voulait faire alliance avec lui. Puis il a dit, je vais te donner un signe que je veux faire alliance avec toi, je vais mettre mon arc en ciel. Évidemment, c'est une manière de parler. L'arc-en-ciel, on sait ce que c'est. En soi-même, ça nous dit pas des choses sur Dieu, mais on en a fait un signe du ciel et de la terre qui se rapprochait, puis on a dit, voilà, quand on voit l'arc-en-ciel dans les nuages, ça nous rappelle que Dieu veut faire alliance avec nous. C'est devenu beaucoup plus clair avec Abraham, hein, à qui Dieu a dit, je sais que ce que tu désires le plus, c'est d'avoir un fils puis d'avoir une terre. Si tu me fais confiance, tu vas les avoir. Hein? Alors, l'histoire d'Abraham nous est racontée au long de beaucoup de chapitres dans le livre de la Genèse, à commencer par le chapitre 12, pour nous montrer qu'à travers tous les hauts et les bas de sa vie, à travers ses épreuves, ses voyages, ses chicanes avec ses voisins, cet homme-là a toujours fait confiance en Dieu puis a toujours cru, le Seigneur va me donner une descendance, puis va me donner une terre où cette descendance-là va pouvoir vivre et être heureuse. Puis, naturellement, bien, ça s'est exprimé encore de façon beaucoup plus claire lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte et qu'avec Moïse, Dieu lui a proposé une alliance, non pas seulement avec une personne, mais avec tout un peuple, où il a dit, bien, si vous acceptez de me faire confiance, je vais être avec vous. Alors, si vous regardez un texte, une phrase particulièrement importante dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 5, « Je vous tiendrai pour mon peuple unique parmi tous les peuples. Je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples. » Il va y avoir un peuple choisi. Ça va être vous, le peuple de Dieu. Et pour ceux d'entre vous qui ont le prions en église du mois, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont et qui vont à la messe quasiment tous les jours, si vous relisez la lecture qui était proposée le 9 août, livre du Deutéronome, chapitre 4, bien là, Moïse répète ça de toutes sortes de façons pour redire au peuple d'Israël, c'est pas parce que vous aviez rien de spécial, c'est pas parce que vous étiez spécialement fin, spécialement fort, spécialement intelligent que Dieu vous a choisi, c'est parce que librement, il a voulu faire de vous son peuple. Alors ça, c'est merveilleux, c'est un miracle, dans le sens que petit à petit, on découvre que Dieu, c'est pas simplement une espèce de force loin de nous autres, qu'on sait pas trop comment nommer, mais qu'on découvre que c'est un Dieu qui veut faire alliance avec nous. Il n'est pas indifférent, il n'est pas simplement quelqu'un qui a créé la terre, puis les humains, puis après ça, qui a dit « je m'en lave les mains, j'ai plus rien à faire avec ce monde-là », qui se débrouille comme ils peuvent. La plupart du temps, ils se débrouillent pas très bien. Il y a des guerres, il y a de la violence, il y a de l'inimitié, mais au contraire, on a un Dieu qui s'intéresse à nous, qui veut qu'on soit heureux, puis qui veut que notre vie ait un sens. C'est pas un Dieu indifférent. C'est pour ça que toujours dans le même grand discours de Moïse qui arrête pas de continuer dans le Deutéronome, il dit aux gens de façon imagée, je place devant toi la mort ou la vie, mais je voudrais que tu choisisses la vie. Hein? On croit dans un Dieu qui fait pas juste de nous dire, ben là, t'es libre, là, tu peux choisir ce que tu veux, tu as toutes sortes d'affaires devant toi, fais tes choix. Il dit, oui, fais tes choix, mais je voudrais que tu choisisses la vie. Je voudrais que tu choisisses ce qui va te rendre vraiment heureux, qui choisisse ce qui va vraiment te rapprocher de moi, puis te rapprocher aussi des autres personnes. Est-ce que c'est un miracle selon la définition de Louisette? Ouais, ça n'a pas l'air fort. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas compris ta définition ou parce qu'ils sont déjà endormis. C'est-tu un miracle? Bon, OK. OK. Ouais, un peu. On va chanter, ça va nous réveiller. Mais on va chanter « L'amour a fait les premiers pas ». Hein, parce que c'est ça qu'on est en train de se dire, « L'amour a fait les premiers pas ». Alors, on va leur chanter. On est rendu où, là? Deux couplets, oui, d'accord.
Préparer la noce, l'invité ne vienne pas, l'amour a fait le premier pas. Ils sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas, l'amour a fait le premier pas, l'amour a fait le premier pas.
Merci. Alors, l'amour a fait les premiers pas. C'est ça qu'on veut se dire ce soir comme étant finalement le plus grand miracle de l'histoire du monde, même avant la venue de Jésus. C'est encore plus fort, évidemment, avec la venue de Jésus, parce que là, non seulement l'amour fait les premiers pas, mais l'amour devient un être humain comme nous, mais même avant la venue de Jésus, l'amour de Dieu fait les premiers pas vers nous, puis nous dit, je t'invite à choisir la vie, hein? Je t'invite à choisir de m'aimer, de me faire confiance. C'est ça qui va pouvoir te rendre vraiment vivant. Parfois, on utilise dans l'Ancien Testament une expression qu'on peut bien comprendre ou mal comprendre quand on dit « notre Dieu est un Dieu jaloux ». Hein? Vous avez déjà entendu ça dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même dit « je suis un Dieu jaloux ». D'habitude, la jalousie, c'est pas supposé être une qualité, ça. Hein? Mais on comprend qu'est-ce que ça veut dire quand c'est expliqué, c'est « je suis un Dieu jaloux parce que je veux avoir tout ton amour hein? ». Je désire que tu me donnes tout ton amour soit vraiment pour moi et non pas éparpillé entre toutes sortes de dieux et entre toutes sortes de biens qui n'en sont pas vraiment. Je suis un Dieu qui te demande tout ton amour parce que moi aussi, je t'offre tout mon amour. Hein? Il y a un petit peu une image de ça quand on dit que Moïse a rencontré Dieu comme un buisson ardent, comme un buisson qui brûlait tout le temps, mais qui n'en finissait pas de brûler, hein, qui ne se consumait pas. C'est comme une manière de dire, ben l'amour de Dieu, c'est un amour qui est fort, qui est brûlant, qui est comme un feu, puis il demande à prendre toute la place dans nos vies. Alors, dans ce sens-là, oui, notre Dieu est un Dieu jaloux, mais pas dans le sens qui serait un Dieu sévère. Hein? On a souvent représenté, on a souvent dit, dans l'Ancien Testament, on parle du Dieu sévère, puis dans le Nouveau Testament, on parle du Dieu miséricordieux. C'est pas tout à fait vrai. Hein? Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu de miséricorde, comme un Dieu d'amour, mais seulement il répète aux gens, ben si tu veux vraiment me suivre, il faut que tu fasses des choix. Puis des fois, ces choix-là vont être difficiles parce que tu vas voir autour de toi beaucoup de peuples qui servent d'autres dieux, puis ça va t'attirer. Hein? Beaucoup de peuples qui servent d'autres dieux, puis ces dieux-là, ils sont attirants parce que c'est des dieux utiles. Hein? Que ça s'appelle Baal ou d'autres noms, c'est des dieux utiles. On les prie parce qu'ils vont nous donner une bonne récolte, parce qu'ils vont nous envoyer de la pluie, parce qu'ils vont nous faire gagner à la guerre, parce qu'ils vont nous rendre plus forts que nos ennemis. C'est des dieux utiles, alors c'est attirant. Tu vas être attiré par d'autres dieux, mais souviens-toi qu'il y a juste moi qui est vraiment ton Dieu et que si tu as confiance en moi, ta vie va être bonne et ta vie va avoir du sens. Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement dominer sur les autres peuples ou que tu vas gagner tout le temps à la guerre parce que tu es un tout petit peuple, mais ça veut dire que ta vie va vraiment être bonne puis va avoir du sens et tu vas marcher sur un chemin qui va finalement te rendre heureux. Donc, au fond, tout l'Ancien Testament, c'est un petit peu ça, hein? C'est constamment l'histoire de Dieu qui se fait connaître à travers des hommes qu'on appelle les prophètes, des femmes aussi, de temps en temps, un peu moins nombreuses que des hommes, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un rôle important pareil. Alors, Dieu qui se fait connaître à travers des prophètes, qui dit tout le temps aux gens, « Je vous aime, je suis avec vous autres, mettez-moi dans votre vie, prenez-moi comme votre guide. » Puis les humains qui disent oui une journée, puis qui disent non le lendemain. Hein? Puis quand ils disent oui, ils ont envie de dire non. Puis quand ils disent non, ils ont envie de dire oui. Ça a-tu beaucoup changé de nos jours? Pas tant que ça. Hein? Ça dépend des fois. Alors, encore une fois, si vous regardez dans le prion en Église, la première lecture de la messe d'aujourd'hui, qu'on n'entendra pas tout à l'heure parce qu'on va continuer par la célébration de l'Eucharistie, mais on n'entendra pas la première lecture, mais je vous le dis, là, ceux qui ont prié à l'Église, si vous regardez la première lecture de la messe d'aujourd'hui, c'est exactement ça qui est raconté, qui nous dit pendant des centaines d'années, probablement pendant des milliers d'années, le peuple a constamment changé d'idée. Hein? Osciller entre dire oui à Dieu, dire non à Dieu, s'allier avec d'autres dieux, etc. Il y avait toujours un petit groupe autour des prophètes qui restaient fidèles, mais pour la grande majorité, les gens changeaient pas mal souvent parce qu'il y avait de la misère à accepter cet amour-là profond, cet amour-là unique que le Seigneur voulait vivre avec eux. Et une chose qui est intéressante à lire aussi dans l'Ancien Testament, c'est que à mesure que les rois du peuple juif devenaient puissants, ils se payaient des prophètes professionnels. Hein, ils engageaient des prophètes professionnels pour leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Pas ce que Dieu voulait, des prophètes pour dire au roi, tu as raison, ce que tu as décidé, c'est bon. Tu as décidé de partir à la guerre, tu as décidé d'exploiter les pauvres, tu as décidé de faire telle chose, c'est bon. Le Seigneur te dit que c'est bon. Ça, ce n'était pas des vrais prophètes. Les vrais prophètes, c'était ceux qui rappelaient au roi qu'il y avait juste une chose qui pouvait le rendre vraiment fort, c'était de faire confiance au Seigneur. Donc, c'est constamment cette histoire-là qui nous est racontée et c'est constamment ce choix qui est offert et que les gens ont bien de la misère à faire. Donc, si on essaie maintenant de se dire, bien, qu'est-ce que ça signifie tout ça pour nous aujourd'hui? Parce que c'est important de connaître cette histoire-là de l'amour de Dieu avant la venue de Jésus. C'est important de lire parfois des passages de l'Ancien Testament puis d'essayer de les comprendre le mieux possible. Mais en même temps, ce qui est important aussi, c'est de nous dire qu'il reste encore dans nos vies à peu près le même choix qu'on est toujours invité à faire. C'est-à-dire d'abord et avant tout, être heureux et heureuse que Dieu ait fait ce choix-là de nous aimer puis de faire les premiers pas vers nous. Ça, c'est la grande bonne nouvelle. C'est le grand miracle que dans la réalité de notre monde, il existe celui qui est la source de la vie, celui qui est l'auteur de la vie, celui qui a fait ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous et en nous, puis que ce Dieu-là, ce quelqu'un-là, il est intéressé à entrer en amitié avec nous. Il est intéressé à nous offrir gratuitement son amour, puis à dire, je veux te guider, je veux t'éclairer pour que ta vie soit la meilleure possible. Et ensuite de ça, bien sûr, c'est est-ce que, une fois qu'on a accepté ça, une fois qu'on croit à cette bonne nouvelle-là, est-ce qu'on va vraiment répondre par un amour fidèle à ce qui nous est offert? Alors, fidèle, évidemment, fidèle, toujours comme on est fidèle, nous les humains, c'est-à-dire que ça varie des fois un petit peu, hein? Ça flotte des fois un peu. Mais est-ce qu'en gros, on va vraiment essayer que celui qui reste la lumière de nos vies, à travers les hauts et les bas, à travers les moments plus difficiles, à travers les joies, les peines, les maladies, tout ça, est-ce qu'on va accepter de rester fixé sur cet amour-là de Dieu, puis d'essayer d'y répondre? Et en passant, bien, je sais pas si vous remarquez autour de vous, c'est peut-être vrai d'ailleurs pour nous aussi des fois, mais on entend beaucoup aussi autour de nous. On peut dire que la majorité des gens qui nous entourent, de notre génération, puis même de la génération plus jeune que nous, ont une certaine foi, une certaine vie spirituelle, mais on a de la misère à nommer celui en qui on croit comme étant vraiment une personne, comme étant vraiment un Dieu Père. Et on a encore plus de misère à nommer Jésus. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Hein, on dit, il y a quelque chose en haut de nous autres, on a une force, la vie nous aide, il y a un gars en haut, il y a un être supérieur. Ben là, un être supérieur, ça commence tout de même à se rapprocher pas mal, là. Mais on a de la misère à nommer un Dieu Père, pardon. Hey, ma voix a baissé. Il va falloir que j'arrête bien vite. C'est peut-être plutôt parce que j'ai caché mon micro avec mes feuilles. Ça doit être plutôt ça. Alors, on a de la misère tout de même. Après 2000 ans de venue de Jésus, puis après plus longtemps que ça, de révélation d'un Dieu Père, d'un Dieu quelqu'un, d'un Dieu qui nous aime, on a de la misère à lui donner son vrai nom. Hein? Pourtant, il s'est révélé à nous de bien des façons, il nous l'a dit, mais on a de la misère à lui donner son vrai nom, puis on a de la misère à croire que c'est vraiment vrai, que c'est quelqu'un, puis que ce quelqu'un-là vient au-devant de nous, et puis nous invite à répondre à son amour. Donc, je pense que nous, les chrétiens, les chrétiennes, on est invités pourtant dans notre monde à être des témoins de ça. Il ne s'agit pas de faire des reproches aux gens qui parlent de la force ou de la vie ou du gars d'en haut, mais il s'agit peut-être de montrer à la fois par nos paroles puis surtout par notre façon de nous comporter que ce gars d'en haut-là, c'est vraiment quelqu'un pour nous. C'est pas quelqu'un qui est indifférent à nous, c'est pas quelqu'un qui est étranger à nos vies, mais c'est quelqu'un qui est proche de nous puis qui nous offre son amour jour après jour. C'est sûr que tout ça va devenir beaucoup plus clair avec la venue de Jésus, hein? C'est tout ce que Dieu a révélé de lui avant la venue de Jésus reste valable pour nous aujourd'hui. Et si déjà on croit à ça puis qu'on y répond dans notre vie, c'est déjà beaucoup. Mais c'est clair qu'avec la personne de Jésus, cet amour-là, cette révélation-là de Dieu devient beaucoup plus claire puis beaucoup plus concrète. Mais ça, faut pas que je vous en parle trop parce que Louisette va vous en parler demain, hein, de ce miracle qui est un Dieu qui vient partager tellement notre vie qu'il devient humain comme nous. Mais reconnaissons d'abord, puis remercions d'abord pour ce miracle que Dieu a fait les premiers pas vers nous, puis qu'il veut qu'on entre dans cette relation de confiance et d'amitié. Alors, on pourrait chanter à nouveau notre chant, puis ensuite de ça, je vais demander à Louisette si elle a un petit commentaire à faire à la suite de ce que je vous ai dit, si elle voudrait venir nous le dire. Alors, je n'ai pas parlé longtemps, ça fait que pour que vous ne soyez pas venus pour rien, il faut toujours bien qu'on en rajoute un peu, hein? Avant la célébration de l'Eucharistie, naturellement. Alors, on chante « L'amour a fait les premiers pas ». Merci. De l'homme pom-pom. Oui, d'accord. OK. J'ai oublié quelque chose. Ben, pas tout à fait, mais juste pour le repréciser encore. Alors, un Dieu quelqu'un, un Dieu qui fait des pas vers nous, un Dieu qui nous offre son amour, ça, c'est le vrai visage de Dieu. Tout en ayant ce visage-là, un peu derrière notre cerveau, il y en a aussi un qui nous reste peut-être un petit peu de notre enfance, pour certains d'entre nous, mais pas pour tout le monde, d'un Dieu qui nous surveille. Hein? Il y en a qui ont l'air de se reconnaître. L'œil de Dieu, là, hein? Qui était dans la tombe puis qui regardait Caïn, là, c'est pas drôle, ben, cette affaire-là. Hein? Alors, tout en disant que Dieu c'est quelqu'un, que Dieu qui est en relation avec nous, on pouvait aussi porter un peu avec nous cette image-là d'un Dieu qui nous surveille, donc qui est en relation avec nous, oui, mais pas tellement pour nous encourager, pour nous aider, pour nous aimer, mais plutôt pour surveiller si on désobéit pas à ses commandements, puis s'il s'aperçoit qu'on désobéit, on a des problèmes. Hein, si on employait l'expression des parents d'aujourd'hui, on a des conséquences. Parce qu'il ne faut plus parler de punition maintenant, là. Il faut parler de conséquences. Alors, si on désobéit à Dieu, on a des conséquences. On ne peut pas dire qu'on n'a pas un petit peu cette image-là en arrière de nos têtes qui nous vient un petit peu parfois de notre éducation. C'est certain que ceux et celles qui nous ont transmis cette image-là l'avaient reçue probablement eux-mêmes et ne faisaient pas nécessairement avec une mauvaise intention, c'était peut-être pour nous mettre devant les yeux le sérieux de la vie chrétienne puis de la foi chrétienne, que si tu crois en Dieu, ben tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Ça reste vrai, mais il reste que c'est certainement pas le visage principal de Dieu qui nous est présenté par la Bible et par la foi chrétienne. Hein? Le visage de Dieu qui nous est présenté, c'est celui d'un Dieu miséricordieux, celui d'un Dieu qui veut la vie, celui d'un Dieu qui nous invite toujours à nous retourner vers lui. Alors parfois, oui, quand on s'éloigne de lui, on se punit nous-mêmes. Hein, ça arrive, bien sûr. Hein? Je pense bien que vous devez avoir dans la tête des exemples, soit dans votre propre vie, soit dans la vie de d'autres, ou quelqu'un qui s'est éloigné sérieusement de l'amour de Dieu se rend lui-même malheureux. Donc, dans ce sens-là, on peut toujours dire, si on veut, qu'il est puni, mais il n'est pas puni parce que Dieu est tapé sur la tête. Il est puni parce que lui-même a fait des choix dans sa vie qui, pendant un temps, du moins, le rendent malheureux ou malheureuse. Mais le Seigneur dit toujours, « Je suis là pour t'offrir ma miséricorde, mon pardon. Je suis là pour te ramener vers moi. Je suis là pour te dire que tu peux encore choisir la vie, même si pendant un certain temps, tu as peut-être choisi la mort, quelque chose qui te rendait malheureux, qui te faisait un peu mourir, mais je suis là pour te dire tu peux toujours choisir la vie et tu as toujours la possibilité de redire oui à cet amour qui t'est offert. » Donc, le visage d'un Dieu surveillant, d'un Dieu sévère, d'un Dieu qui est là pour punir nos manquements, c'est certainement pas le visage de Dieu qui nous est présenté par la Bible, par la Révélation, encore moins, bien sûr, par son Fils Jésus, comme on va se le dire demain, puis comme on va se le redire quand on va célébrer demain soir le sacrement du pardon, le sacrement de la miséricorde. C'est vraiment ce visage de quelqu'un qui vient au-devant de notre faiblesse, de nos manquements, pour nous redonner la vie, puis pour nous redonner son amour. Alors là, c'est vrai que j'ai fini, ça fait que Louisette, si tu as quelques mots que tu veux rajouter, des choses que ça t'a inspiré ou des choses que tu veux corriger. Si. Il y a un petit micro là, il y a un petit micro juste là. Oui. Merci, Louisette. Alors, justement, ça peut nous laisser avec cette question-là. Là. Ben, j'espérais, mais je pense que je vous ai dit de façon plus claire encore. Là. Moi, dans ma vie, qu'est-ce que ça signifie que Dieu fait les premiers pas vers moi? Qu'est-ce que ça signifie que Dieu vient à ma rencontre? Est-ce que j'ai expérimenté dans ma propre vie une présence d'un Dieu qui vient à mon devant, qui me guide, qui m'éclaire, qui me rassure, qui me pardonne, qui m'aide à aller de l'avant, au fond, c'est ça. Si c'est vraiment ça, la réalité de Dieu telle que dite dans la Bible, bien, pour moi, est-ce que c'est réel que c'est ça? Je pense qu'on peut rester avec cette question-là ce soir. On n'a pas de partage en équipe, mais on peut rester avec cette question-là, chacun et chacune d'entre nous, essayer d'y répondre. Une autre chose que j'ai oubliée, qui va plutôt avec ce que Louisette a dit cet après-midi, c'est que vous savez, j'espère que le pape François a publié il y a déjà 3 ans toute une encyclique sur la beauté du monde et de la création. Loué sois-tu, Seigneur, qu'on appelle des fois de son titre italien Laudato si. Alors, sur la beauté du monde, la beauté de la création, la beauté des êtres humains dans cette création-là et comment on est appelé à sauvegarder la création, le monde, et à transmettre aux autres, à nos descendants, aux générations à venir, un monde meilleur, un monde plus beau. Alors, ça vaut vraiment la peine d'être lu, cette encyclique-là du pape François, puis ça l'a inspiré déjà beaucoup de gens qui travaillent à préserver la planète, autant des gens qui sont des croyants chrétiens convaincus que d'autres qui se disent incroyants, mais qui tout de même trouvent important la sauvegarde du monde. Il y a bien des gens qui ont lu cette encyclique-là du pape et qui ont dit que c'était une grande inspiration. Alors, si vous ne l'avez pas fait, bien que vous avez l'occasion de mettre la main dessus et d'en lire au moins des extraits, je pense que ça peut être très enrichissant. Alors là, si je comprends bien, Jean-Claude, on prendrait une pause? Combien de temps? 5 minutes? Alors, une pause 5 minutes pour avoir le temps de préparer l'autel pour l'Eucharistie. Et par la suite, on enchaîne avec la célébration de l'Eucharistie. Merci.